Bonjour à chacun. Alors, je vous propose ce matin à nouveau un petit voyage dans le passé du peuple d'Israël. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais partagé avec vous au sujet de Mardoché. Et je vous propose aujourd'hui d'aller une quarantaine d'années plus tard. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là ou chez qui la mémoire défaille, je ne dise personne, Charlie. Après, donc, je vais juste vous rappeler un petit peu le contexte. Donc, après avoir été libéré d'Égypte, le peuple d'Israël s'est donc installé dans le pays promis. Et après un temps durant lequel les juges assumaient les affaires courantes, il y avait donc eu un temps où ce sont des rois qui ont pris la suite. Et malgré ça, le peuple n'a eu cesse de se rebeller contre Dieu. Des prophètes ont essayé d'alerter le peuple et ses dirigeants. Mais l'effet a été soit nul, soit de courte durée. Le peuple juif va donc être déporté à Babylone et la capitale Jérusalem détruite, conformément aux prophéties. Quelques années plus tard, les Perses prennent le dessus sur les Babyloniens et après 70 ans d'exil, Cyrus autorise les Juifs à rentrer à Jérusalem. Un premier groupe revient et reconstruit le temple. Puis un second groupe mené par Esdras revient également. Entre-temps, c'est là que s'est déroulée l'histoire de Mardoché et d'Esther qui réussirent à sauver le peuple d'un génocide certain. Alors, c'est dans ce contexte, 40 ans après l'histoire d'Esther, qu'apparaît le personnage que nous allons découvrir ou redécouvrir ce matin. À savoir, quelqu'un a une idée ? Néhémie, tout à fait. Néhémie est échanson du roi. En gros, il gère la cave, le bar, mais surtout, il goûte les boissons. C'est un poste de confiance, de responsabilité, il est dans le cercle rapproché de l'empereur. Un jour, quelqu'un va lui rendre visite, et sa vie va en être chamboulée. Alors, je vous propose de lire ensemble ce récit dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er. José, si tu veux bien afficher Néhémie 1, des versets 1 à 4. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent : ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Le récit commence fort. 4 versets suffisent à dévaster le moral de Néhémie. Il demande des nouvelles de Jérusalem, des Juifs revenus d'exil. Et la réponse de son frère est assez concise. Concernant le peuple, il est dans la misère, il vit une situation humiliante. Concernant la ville de Jérusalem, elle est ouverte aux quatre vents, plus de portes, les murs d'enceinte sont en ruine. Alors on peut se demander s'il y a de si grave dans ces annonces. C'est triste, c'est sûr. Mais pourquoi Néhémie réagit-il comme cela ? Il se met à pleurer. Il est abattu pendant plusieurs jours. A priori, Néhémie n'est pas personnellement concerné. Sa situation à lui n'est en rien affectée. Ça se passe à l'autre bout de l'Empire. Pourquoi est-ce si terrible ? C'est terrible parce que ça en dit long sur la relation entre Dieu et son peuple. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Néhémie. On peut le voir au verset 6, il dit en sa prière à Dieu « Moi et mon peuple ». Même à plusieurs centaines de kilomètres, il en fait partie intégrante. Il ne les regarde pas de haut en disant « À Jérusalem, ils ont rien compris, ils ne fichent rien, ça fait des années qu'ils auraient pu reconstruire la muraille. » Les échecs de son peuple sont ses échecs. La souffrance de son peuple, c'est sa souffrance. Et la situation est grave non seulement à cause de la souffrance du peuple, mais aussi à cause de la situation catastrophique, du délabrement de Jérusalem. Jérusalem, c'est là où David a fait amener le coffre de l'Alliance. Jérusalem, c'est là où Salomon avait bâti le temple. C'est la ville où résidait Dieu. De nombreux psaumes parlent de Jérusalem dans ce sens-là. psaume 130, à la fin du psaume 135. « Béni soit l'Éternel depuis le mont Sion, lui qui réside à Jérusalem. » Mais du fait de la rébellion, de la désobéissance du peuple, Dieu a décidé de dévaster cette ville. C'est ce qu'annoncèrent des prophètes, comme Jérémie ou Michée. On peut lire en Michée 3, des versets 9 à 12. « Écoutez donc ceci, chef du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit et qui corrompez la justice, qui bâtissez Sion en répandant le sang et Jérusalem par le crime. Ces chefs rendent leur jugement contre des pots de vin, et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. Et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. La montagne du Temple sera une colline couverte de broussailles. » Jérusalem en ruine, c'est le symbole de la sanction de Dieu contre son peuple. Jérusalem à terre, c'est le symbole de la colère de Dieu contre son peuple, le symbole de l'infidélité, le symbole de la confiance perdue. Pour Néhémie, Jérusalem à terre, moqué par les peuples environnants, c'est aussi Dieu qui est insulté. Alors, comment réagit Néhémie à ces nouvelles? Le texte nous dit trois choses. Il pleure, il jeûne et il prie. Il est attristé, dévasté par cette nouvelle. Mais il ne se laisse pas abattre. Il en appelle à Dieu, au travers du jeûne et de la prière. Je propose de lire ensemble sa prière à partir du verset 5, donc dans Néhémie, chapitre 1. « Je suppliais, ah Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse son serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. » Waouh, quelle prière! Je note plusieurs points importants dans sa prière et qui peuvent certainement nous aider à enrichir les nôtres. Tout d'abord, et comme Luc nous l'a partagé dans la présence ce matin, Néhémie connaît son Dieu. Il connaît son alliance, il connaît ses promesses. Il sait que Dieu est grand et redoutable. Il sait aussi que Dieu est bienveillant envers ceux qui l'aiment et lui obéissent. Il sait que c'est Dieu qui a envoyé son peuple en exil. Mais il sait aussi que c'est Dieu qui rassemble son peuple dispersé. Il connaît son Dieu. On voit aussi qu'il prend sa prière à cœur. Enfant, je glissais souvent dans ma prière le soir, d'une voix assez monocorde, « Guéris tous les malades si tu le veux. » C'est bizarre, non ?« Guéris tous les malades si tu le veux. » Bien sûr qu'il y a un temps pour se soumettre à la volonté de Dieu. Mais la prière, c'est aussi le lieu où on peut exprimer ce que l'on a au fond du cœur. Au fond de nous, on peut crier à Dieu, pleurer, murmurer, insister, comme Néhémie. « Je t'en prie, de grâce !» Troisièmement, on voit aussi que Néhémie assume ses échecs. En fait, il va même plus loin, il assume les échecs de son peuple. Il n'essaye pas de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il se reconnaît pécheur, il sait que son peuple et lui-même ont été infidèles. Il ne reproche pas à Dieu la situation dans laquelle est Jérusalem. Il sait que c'est la conséquence de son infidélité et de celle du peuple. On voit aussi qu'il reconnaît les limites de son action. Seul, il n'y arrivera pas. Il sait qu'il ne peut que compter sur l'intervention favorable de Dieu. Néhémie connaît Dieu, il prend à cœur sa prière, il assume ses échecs, il sait que c'est Dieu seul qui pourra changer la situation. Néhémie me remet en question sur ma vie de prière. Il connaît vraiment le cœur de Dieu. Il est attristé quand quelque chose est contraire à la sainteté de Dieu. Il peut passer des jours à prier, à intercéder devant Dieu. Mais aussi, on le verra tout à l'heure, en un clin d'œil, au cœur de l'action, il peut aussi remettre à Dieu la situation présente. Alors après un Néhémie attristé, j'aimerais vous présenter un Néhémie actif. À la suite de sa prière, et environ 3 mois après la venue de son frère, c'est l'empereur qui voit que Néhémie est sous le choc. Donc là, après une prière éclair, Néhémie lui expose la situation. L'empereur va accepter sa demande et lui accorder le droit d'aller reconstruire la ville. Il va lui fournir les matériaux nécessaires au chantier. Il lui offre même une escorte pour le trajet. Néhémie va de l'avant. Il ne se contente pas de crier à Dieu, de crier sa détresse dans cette situation. Cette ville, Jérusalem, il a à cœur de la reconstruire. Ce peuple, il souhaite l'aider à revenir à Dieu. Il va de l'avant. Je propose de lire dans Néhémie, chapitre 2, les versets 9 à 18. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sambala le Horonite et Tobia le fonctionnaire ammonite apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Donc on voit ensuite, pendant quelques versets, qu'il va donc faire le tour des murailles au sud, et on reprend au verset 16. « Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais pas informé ni les juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis « Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Le premier point que je note à son arrivée à Jérusalem, c'est que Néhémie vérifie ses sources. Il ne se base pas sur des rumeurs, des oui-dire. Il sait qu'il y a un souci, mais il va voir par lui-même. Il va se faire sa propre opinion de la situation. Et ensuite, je trouve remarquable la manière dont il suscite l'engagement des habitants. Le passage qu'on vient de lire se termine par « Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Je trouve ça impressionnant, cette motivation, cet engagement. C'est parce qu'ils ont vu l'action de Dieu qu'ils veulent en faire partie. Néhémie en est bien conscient. Ces autorisations obtenues de l'empereur, c'est Dieu qui les a données. Néhémie ne décrète pas un travail forcé pour reconstruire la muraille. Il amène chacun à avoir envie de se joindre à ce projet magnifique que Dieu a. Rebâtir son peuple, restaurer sa ville et son temple. C'est, à mon avis aussi, pour nous l'occasion en cette rentrée de prendre courage. Regardons la main bienveillante de Dieu. Regardons comment il agit autour de nous, dans notre église, en nous. Levons-nous, prenons courage pour réaliser cette belle œuvre. Non pas des murailles tout autour de ce local, mais être un peuple qui témoigne de son Dieu, comme Jérusalem témoignait de Dieu. Je propose de lire dans Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 14. « En effet, La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. C'est la grâce, la délivrance de Dieu qui seule peut être notre moteur. C'est parce que Jésus a donné sa vie, parce qu'ainsi il a mis une première pierre à ce projet, que nous sommes invités à le poursuivre. Nous connaîtrons des échecs, c'est certain. Les remparts de Néhémie n'ont pas tenu éternellement. Mais, comme on vient de le lire, nous sommes invités simplement à nous mettre en route dans cette direction-là, dans son projet pour nous. Et la suite des travaux dans le livre de Néhémie peut ressembler à nos vies, dans certaines circonstances parfois. Moquerie, menace, peur, découragement. Quels sont les réflexes de Néhémie dans ces situations ? Face aux moqueries, il réaffirme et garde confiance dans les projets de Dieu. Face aux menaces et à la peur, il prie Dieu. Il organise pour que chacun soit en sécurité, il encourage. Face au découragement, il rappelle que c'est Dieu qui œuvre. Et dans tous ces temps de travaux, Néhémie fait particulièrement deux choses. Il mène le travail par l'exemple et il prie. Il prie pour lui, il prie pour les autres ouvriers, il prie contre les moqueurs, ceux qui voudraient voir le projet échouer, il prie en toute situation. Il reste attaché à Dieu et confiant. Néhémie nous rappelle que notre action, c'est Dieu qui l'amène. Lorsque Dieu veut restaurer son peuple, il le fait. On l'a lu il y a quelques instants, à l'image de la restauration de Jérusalem, c'est aussi l'image de notre restauration, personnelle et en tant que peuple de Dieu. Jésus a permis cette restauration. Il nous a mis dans les rails, il nous aide à avancer. Œuvrons pour ses projets. Ils sont sûrs, durables. Alors, après avoir vu Néhémie attristé et Néhémie dans l'action, je vous propose un troisième aspect de la personnalité de Néhémie. Je suis sûr qu'il y en aurait encore beaucoup d'autres. Je propose de regarder particulièrement au chapitre 5, les versets 1 à 5. Néhémie est indigné. Indigné devant des injustices sociales, indigné devant l'absence de solidarité, indigné devant les plus riches qui maltraitent les plus faibles, indigné devant l'altitude de certaines personnes vis-à-vis de leurs compatriotes. À cette époque, les hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient « Nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. » D'autres déclaraient « Nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. » D'autres encore se plaignaient « Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. » Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents des leurs, et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. La situation sociale est terrible. On apprend qu'afin de payer l'impôt, certains Israélites ont été contraints de vendre leurs terres, puis d'asservir leurs propres enfants. D'autres n'ont simplement pas assez à manger pour survivre. Les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. Les plus aisés n'hésitent pas à exploiter les plus démunis. C'est une chute sans fin pour ces derniers. Une spirale. Moins ils ont de terre, moins ils auront de blé. Moins ils ont de blé, plus ils devront en acheter. Et ils devront alors emprunter, mettre d'autres terres en gage, etc. Alors après avoir entendu ces plaintes, Néhémie explose. Le texte nous dit qu'il est saisi d'une violente colère. Cette colère le pousse encore une fois à agir. Il commence par convoquer tous les concernés. Il leur expose le problème. Quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. Puis, il replace cela dans le cadre de la relation à Dieu. Au verset 9. ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu pour ne pas donner à nos ennemis, les autres peuples, l'occasion de nous couvrir de honte ? Nos actions envers les plus démunis et, à plus forte raison, notre inaction, notre manque d'amour, sont vus par ceux qui s'intéressent à notre Dieu. Ce n'est pas simplement une question d'obéissance à Dieu. C'est aussi une question de témoignage. Les personnes qui nous observent s'attendent à ce que notre comportement et notre Dieu soient cohérents. Si ce que nous leur montrons n'est pas conforme à notre Dieu, comment vont-ils le découvrir véritablement, ce Dieu ? Alors, dans sa situation sociale, Néhémie propose une solution. Non seulement leur remettre la dette, mais également rembourser les intérêts indûment perçus. Il leur fait prendre solennellement un engagement de changement de comportement. C'est une action rondement menée de sa part, pas de round de négociation ou autre. Néhémie est efficace. Les fautifs se soumettent à sa décision. Mais son action ne s'arrête pas là. Il va aussi donner l'exemple dans sa propre vie. Il va remettre les dettes qu'il détenait et il va assumer sa fonction de gouverneur sans prélever d'impôts lui-même. Néhémie, dans son rôle de gouverneur, ne se soucie pas uniquement de faire tourner le pays, de réparer les murailles. Il se soucie aussi que chacun dans le peuple puisse être restauré, puisse vivre comme Dieu l'a voulu. Il n'oublie pas les plus pauvres et il remet en place les règles de la loi. Alors, on a pu voir au travers de ces quelques extraits du livre de Néhémie combien son rôle a pu être décisif dans le rétablissement du peuple juif dans son pays. Mais je dirais que tout le monde n'est pas Néhémie, il n'y en a eu qu'un. Cependant, je retiendrai deux aspects principaux de cette rencontre avec Néhémie qui peuvent particulièrement s'appliquer pour nous. Tout d'abord, Néhémie agit. Il ne se contente pas de relever des problèmes, il passe à l'action, il met la main à la pâte. Il entraîne avec lui, il motive. Comment ? Non pas parce que ce sont ses projets, c'est pas ses projets à lui propre, c'est pas ses propres projets, c'est pas ses idées folles à lui. Non, il entraîne ses compatriotes dans les projets de Dieu. Il a foi que Dieu restaurera son peuple et Jérusalem, comme il l'a promis. Néhémie partage cette foi qu'il a. Il connaît la grâce de Dieu. Il sait que le temps d'exil touche à sa fin et que Dieu est prêt à accueillir ceux qui reviennent à lui. Il connaît son Dieu et les projets de réconciliation qu'il a. Un autre aspect qui me parle particulièrement dans sa vie, c'est la place de la prière. À quasiment tous les chapitres, on le voit prier de manière très différente. Parfois, il prie pour supplier Dieu, parfois pour sceller un engagement. Ailleurs, c'est pour confesser ses échecs. Il n'essaye pas d'amadouer Dieu en se faisant passer pour meilleur qu'il n'est. Il y va avec son cœur. Il intercède auprès de Dieu en comptant sur Dieu et pas sur lui. C'est à mon avis un point essentiel, son attachement à Dieu. La prière a une place impressionnante dans ce livre et dans sa vie. Mais qu'en est-il dans la nôtre ? Alors après, cependant, malgré tous les changements mis en œuvre dans les premiers chapitres qu'on a pu voir, les comportements ont du mal à évoluer. La restauration n'est pas si réussie. Au dernier chapitre, on peut voir que Néhémie a quitté Jérusalem quelque temps et lorsqu'il revient, les compromissions sont de retour. L'engagement d'obéissance à la loi n'a pas été tenu. À nouveau, le peuple tombe dans ses travers. Il se compromet en s'alliant avec des étrangers, il ne respecte plus le sabbat, il néglige la dîme. Néhémie ne baisse pas les bras. Il continue avec patience à reprendre, parfois énergiquement, mais il a à cœur cette purification du peuple. Malgré ça, malgré tout son travail, ça ne suffira pas à ramener le peuple juif à la fidélité envers Dieu. Vous connaissez probablement la suite de l'histoire. Il faut une restauration plus radicale. Elle viendra par grâce, par amour de Dieu pour nous, en Jésus. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, en Tite, Jésus-Christ s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes.